à Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec en direct de Washington, mercredi, jeudi 3 mai 2018, Le Monde Aujourd'hui, édition de 17h30. Au sommaire ce soir, à Gao, au Mali, des hommes lourdement armés, à bord de motos et un véhicule, ont attaqué la base du Front de Libération du Nord, un groupe d'autodéfense. Au Burkina Faso, une école primaire a été incendiée et un marché saccagé par des djihadistes présumés. La procureure de la CPI a terminé sa visite en République démocratique du Congo en rappelant que les auteurs de violences pourraient faire l'objet de poursuites. La presse américaine fait les choux gras avec l'affaire d'une actrice de film porno qui accuse le président Trump. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais d'abord le journal. Au Mali, au sortir de la ville de Gao, des hommes lourdement armés à bord de motos et un véhicule ont attaqué une base du FLN, le Front de Libération du Nord, mouvement d'autodéfense. Les combats ont duré plusieurs minutes avec un bilan de 1 mort et 2 blessés. De Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
Les assaillants venus sur des motos accompagnés d'un véhicule 4x4 ont attaqué la base du FLN, Front de Libération du Nord, situé au sortir de la ville sur la route de Kidal, à quelques 200 mètres du jackpot des Fama. Il était alors 3h10 lorsque les premiers coups de feu ont retenti. Ayouba Mislim, commandant de zone du FLN, nous explique.
Ils ont garé leur moto à 300 mètres d'ici, 300-400 mètres de la base, et ils ont rampé pour rentrer dans la base. C'est de vrais commandes. Ils n'ont pas réussi de faire ce qu'ils veulent faire parce qu'ils voulaient faire comme d'habitude. Tu fais tac-tac, nous, les gens fuient, tu prends les armes, le véhicule comme tu veux et tu rentres. Ça n'a pas été le cas.
Les combats ont duré plusieurs longues minutes avec ce bilan que nous livre le commandant de zone du FLN.
Le véhicule, tu vois, ils ont cassé tous les pneus, ils ont tiré sur les pneus, ils ont tiré sur le moteur. Des hommes qui sont venus faire du mal et qui ont un seul mot de la bouche, Allahu Akbar. Les combattants qui sont là ont répondu. Ça n'a pas été facile. Nous, on a eu quand même un mort, deux blessés. Et de leur côté aussi, ils ont eu des blessés. Je ne sais pas s'il y a de mort ou pas.
Ce matin, une forte délégation de l'armée malienne s'est rendue sur les lieux pour apporter leur soutien aux combattants du FLN qui sont parvenus à repousser les assaillants. Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Au Burkina Faso, l'école primaire de Bafina, à 180 km au nord de Ouagadougou, a été incendiée hier soir par des individus armés qui ont également saccagé le marché d'un village voisin. Le point avec Nathalie Barge.
Des individus armés ont incendié l'école primaire de Bafina et le logement du directeur après l'avoir ligoté, selon un habitant. Une dizaine d'individus en motocyclette sont arrivés en tirant en l'air, a témoigné un instituteur, précisant que certains sont ensuite allés à Gwenbila pour y saccager des échoppes et le quartier général des Kolwéogo, un groupe d'autodéfense local. Le Burkina Faso est confronté depuis 3 ans à des attaques meurtrières dans le nord du pays où plus de 200 établissements scolaires ont dû fermer, privant d'école quelques 20 000 élèves et 800 enseignants. En avril, un instituteur a été kidnappé parce qu'il parlait français aux élèves. Le groupe État islamique dans le Grand Sahara a revendiqué l'enlèvement. Le tribunal de Djibo, près de la frontière malienne, a été fermé pour raisons de sécurité, le personnel craignant des représailles djihadistes. L'armée a indiqué avoir interpellé une centaine de personnes lors d'opérations de ratissage le mois dernier.
Au Sénégal, procès de 29 présumés djihadistes. L'imam Alioune Daho, le principal suspect, affirme qu'il ignorait que plusieurs milliers d'euros qui lui avaient été remis en 2015 provenaient de membres présumés des organisations djihadistes Boko Haram et État islamique. Il est accusé d'avoir ourdi avec ses co-prévenus un complot visant à instaurer une base djihadiste dans le sud de ce pays. Ils sont également poursuivis pour acte de terrorisme par menace d'attentat, association de malfaiteurs, financement du terrorisme, blanchiment de capitaux et apologie du terrorisme. En Casamance, dans le sud du Sénégal, toujours, cette nuit, des hommes armés ont ciblé le pont de Niambalang. Ils ont incendié les huttes de pêcheurs sous le pont, dont l'un est mort dans la chute de débris. Les assaillants ont tenté de faire sauter le pont avec des explosifs, mais n'y sont pas parvenus. Dans le nord du Nigeria, 13 personnes ont été tuées dans des affrontements dans l'état de Zamfara. D'après la police, des échanges de tirs ont opposé des membres d'une milice locale d'autodéfense à un gang de voleurs de bétail dans le village de Fankashi. Les enlèvements contre rançon et les vols de bétail sont devenus courants dans les communautés rurales de l'état de Zamfara. Au Gabon, le Premier ministre Emmanuel Issoze Gondé a été reconduit dans ses fonctions 2 jours après avoir présenté la démission de son gouvernement. Monsieur Gondé doit maintenant former un nouveau gouvernement probablement demain, indique un porte-parole de la présidence. Il avait annoncé la démission de son gouvernement suite à la décision de la Cour constitutionnelle ordonnant la dissolution de l'Assemblée nationale et en conséquence exigeait le départ du gouvernement. Selon la Cour, le gouvernement n'avait pas rempli ses obligations d'organiser des élections législatives avant fin avril. République centrafricaine, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle au calme et exhorte les autorités à enquêter sur les attaques répétées récentes. Il exhorte tous les acteurs à mettre fin à la violence et à travailler ensemble pour amener la paix et la stabilité dans le pays. Il condamne les violences du 1er mai à Bangui, qui ont fait au moins 24 morts, et demande aussi aux autorités centrafricaines d'en traduire rapidement les responsables en justice. Mercredi, des sources médicales sur place avaient indiqué avaient établi un bilan, notamment 170 blessés à Bangui lors des affrontements mardi. République démocratique du Congo, le procureur de la Cour pénale internationale a mis fin à sa visite de 2 jours à Kinshasa. Fatou Bensouda a déploré des cas de violence à répétition dans plusieurs villes et rappelé que certains pourraient faire l'objet de poursuites par la CPI. Elle a également appelé les autorités à mener des enquêtes véritables et à lutter contre l'impunité. Les détails avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Je suis inquiète de la situation critique et des épisodes de violence qui m'ont été rapportés à Kinshasa, à Beni, dans le Kassai ainsi que dans d'autres parties de la RDC, a dit d'entrée Fatou Bensouda. Certains actes observés à ces occasions pourraient constituer des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale, précise-t-elle. Le procureur de la CPI qui a échangé sur ces questions avec le président Joseph Kabila ainsi que des responsables politiques et judiciaires de la RDC, avec la Conférence épiscopale nationale du Congo, avec l'opposition et la société civile recommandent aux autorités de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des enquêtes véritables soient menées sur des violences alléguées et que les acteurs impliqués soient traduits en justice. Fatou Bensouda a également insisté sur la lutte contre l'impunité qu'elle qualifie de primordiale pour la stabilité sociale en République démocratique du Congo. Les appels des nombreuses victimes pour que justice leur soit rendue doivent être entendus, a-t-elle insisté. Elle a par ailleurs noté des progrès réalisés par les autorités dans la lutte contre l'impunité et les encourage à les renforcer. Mon bureau, a-t-elle conclu, poursuit avec une extrême vigilance son travail de terrain en République démocratique du Congo. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Au Soudan, le président Omar El-Béchir a ordonné la fermeture de 13 missions diplomatiques à l'étranger et une réduction d'effectifs du ministère des Affaires étrangères pour des raisons économiques. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
La fermeture des 13 missions diplomatiques et la réduction du personnel du ministère des Affaires étrangères interviennent 2 semaines après le limogeage d'Ibrahim Gandou, alors chef de la diplomatie. Il avait laissé entendre que des diplomates en poste à l'étranger n'ont pas été payés depuis des mois. Le président Béchir a aussi ordonné de limiter à une personne l'effectif diplomatique dans 7 missions et de réduire de 20% le nombre d'employés administratifs dans les autres ambassades. Il a décidé de supprimer le personnel administratif du ministère à Khartoum. Les diplomates seront désormais chargés des tâches administratives. Khartoum explique sa décision par la volonté de faire des économies. Le pays a subi un coup dur avec la sécession du Soudan du Sud en 2011, une situation qui l'a amputé de la plus grande partie de ses revenus pétroliers.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a assuré aujourd'hui que l'argent versé par son avocat à une actrice porno, qui prétend avoir eu une liaison avec lui, ne provenait pas de ses fonds de campagne. Les précisions de Jacques Aristide.
Le président américain dément pour la première fois publiquement la véracité des dires de Stormy Daniels, alias Stephanie Clifford, des accusations fausses et relevant de l'extorsion, écrit-il sur Twitter. L'actrice a dit avoir eu une liaison d'une nuit avec M. Trump en 2006. Elle a affirmé que 130 000 dollars lui avaient été versés peu de temps avant l'élection présidentielle de novembre 2016 par Michael Cohen, l'avocat de M. Trump, dans le cadre d'un accord de confidentialité destiné à la faire taire. Rudy Giuliani, l'ancien maire de New York, qui a rejoint récemment l'équipe des avocats du président, a déclaré hier que M. Trump avait remboursé les 130 000 dollars versés par son avocat. Le président Trump a confirmé ce matin que Michael Cohen n'avait pas utilisé des fonds de sa campagne présidentielle pour payer l'actrice de film X. Monsieur Cohen a perçu des honoraires mensuels, pas de ma campagne et sans lien aucun avec ma campagne, ajoute le président. La Maison-Blanche a démenti toute liaison entre Monsieur Trump et Madame Daniels. Cette dernière a porté plainte contre le président pour diffamation.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée par Eric Manirakiza.
En RDC, la principale société minière, la Gécamines, et le millionnaire belge Georges Forest ont mis fin ce mercredi à leur différend sur l'exploitation de terrils de Lubumbashi qui alimente le plus gros four métallurgique d'Afrique pour produire un alliage contenant du cobalt et du cuivre. L'accord transactionnel prévoit que le groupement du terril de Lubumbashi transfère la pleine propriété de l'usine à la Gécamines et s'engage à réparer le four de l'usine. L'usine produit environ 5500 tonnes de cobalt et 3500 tonnes de cuivre par an. La montagne de terril de Lubumbashi est constituée de 14,5 millions de tonnes de résidus du traitement du cuivre. L'économie de la Guinée connaît une croissance rapide. En 2017, elle a enregistré un taux de plus de 8% d'après le FMI. Un regain des activités du secteur minier a favorisé cette performance. En 2016, la mine représentait environ 98% du total des revenus d'exportation de la Guinée. Par contre, le FMI indique que l'inflation globale dans le pays continue de croître et a atteint près de 9% l'année passée. Le déficit budgétaire se chiffre à 1,1% du produit intérieur brut pour la même période. L'institution de Bretton Woods table sur une croissance de 6% cette année. Pour la première fois en 7 mois, le déficit commercial des États-Unis a diminué en mars. C'est à la suite de l'effet d'exportation record, notamment vers la Chine, et combiné à un recul des importations.
Maintenant, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Morgan.
Suspense entre l'Atlético et Arsenal en demi-finale retour de l'Europa League ce soir.
Et oui Morgan, après le 1-1 de l'aller, l'Atlético peut s'appuyer sur sa solidité à domicile et ses bonnes performances européennes dans ces dernières années. Deux titres en Europa League en 2010 et 2012 et deux finales de Ligue des Champions en 2014 et 2016 en face. Les Gunners rêvent d'offrir une sortie prestigieuse à leur entraîneur emblématique Arsène Wenger, qui quitte le club en fin de saison après 22 ans, coup d'envoi 19h05, temps universel.
À la même heure, les Autrichiens de Salzbourg reçoivent l'Olympique de Marseille.
Marseille a pris un bel avantage à l'aller dans un vélodrome survolté grâce au but de Florent Thauvin et du Camerounais Clinton Ndi. Il faudra toutefois se méfier de Salzbourg, invaincu devant son public cette saison et qui avait battu l'OM 1-0 pendant la phase de groupe.
Sur le continent, Sébastien Minier est le nouveau sélectionneur du Kenya.
Le technicien français entraîneur, ancien entraîneur du Congo, a été nommé aux commandes de la sélection kenyane vacante depuis le départ du Belge Paul Putz en février. Sa première mission est de qualifier le Kenya pour la CAN 2019 au Cameroun. Donc, le Kenya a perdu son premier match des éliminatoires face à la Sierra Leone 2-1 dans une poule qu'il partage aussi avec le Ghana et l'Éthiopie. Sébastien Minier a été l'adjoint de Claude Leroy durant 9 ans à Oman, en RDC, au Congo et au Togo, avant de devenir, disons, sélectionneur du Congo entre 2017 et 2018.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De retour avec vous, Morgane Guiriec. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Place au dossier du jour. Venons-en au sort du général Jean-Marie Mokoko, détenu au Congo-Brazzaville depuis la présidentielle de 2016, qu'il a perdu. Ses avocats ont saisi des instances internationales pour détention arbitraire. Marc Mapingu, représentant de l'ancien candidat, compte se rendre bientôt aux États-Unis et au Royaume-Uni pour plaider la cause du général. Pour lui, c'est le début d'une campagne internationale pour sa libération. Joint par Bagessi Koura, il parle des conditions de détention de Jean-Marie Mokoko.
Le général Jean-Marie Michel Mokoko se porte comme un prisonnier. C'est un prisonnier qui ne voit pas la lumière du jour. C'est un prisonnier qui vient de perdre sa sœur hier même et qui ne verra hélas pas comment vont s'organiser les obsèques de sa sœur. C'est un prisonnier qui est malheureusement dans une situation où il ne peut pas se défendre sérieusement parce que il est prisonnier dans un état voyou, c'est-à-dire dans un état qui ne respecte pas le droit et qui ne respecte pas la justice.
On dit qu'il a des problèmes de santé, qu'il est détenu dans des conditions difficiles.
Oui, bien sûr. Depuis le premier jour, il est détenu dans des conditions difficiles. Nous savons bien que le général et les Congolais le savent.
Alors, et donc c'est pour ça que vous et les avocats du général Mokoko, vous vous êtes tournés vers les Nations Unies. Expliquez-nous vos attentes.
Écoutez, déjà, nous avons voulu internationaliser le problème de Mokoko et le problème de détenus, tous les détenus politiques. Dans le cas de Mokoko, nous avons épuisé toutes les voies de recours internes et ayant épuisé toutes ces voies, nous avons compris qu'il fallait se retourner vers le groupe de travail de l'ONU pour la détention arbitraire, pour lequel on demande donc au gouvernement congolais de l'injonction de libérer le général Mokoko.
Et vous comptez donc aussi saisir la Commission africaine des droits de l'homme?
Voilà, nous allons aussi nous diriger vers le comité des droits de l'homme et pour les mêmes causes.
Que ce soit les Nations Unies ou l'Union africaine, ces instances émettent des avis non contraignants. Qu'est-ce que vous recherchez concrètement?
Bon, ce que nous recherchons, pour être objectif, c'est de dire à ces États, enfin à ces organismes, que nous avons des prisonniers politiques dans ce pays qui sont injustement incarcérés. Et que nous avons besoin qu'il y ait, qu'on lise le droit et qu'on fasse appliquer le droit, mais pas une parodie de droit, puisqu'on les a retenus de façon arbitraire. Et comme on les a retenus, et notamment le général Mokoko, de façon arbitraire, alors nous voulons effectivement qu'il y ait réparation.
Marc Mapingu, porte-parole du général Jean-Marie Mokoko, détenu au Congo-Brazzaville. A noter que VOA continue de tenter d'avoir une réaction des autorités congolaises.
L'émission interactive de VOA Afrique, à votre avis, c'est à 18h05 temps universel. À l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, nous aimerions savoir où et comment vous vous informez. Si vous êtes satisfait de la couverture médiatique dans votre pays et au plan international, à votre avis, comment l'améliorer et la rendre plus accessible? Et comment éviter les fake news? Si vous souhaitez participer, laissez vos numéros et commentaires sur la promo de notre page Facebook ou appelez en direct au 001 202 205 26 33. À tout à l'heure sur VOA Afrique.
Au Sahel, 5 millions de personnes ont besoin d'une assistance alimentaire. 1,6 million d'enfants sont en risque de malnutrition aiguë sévère et 2,5 millions d'éleveurs et agro-éleveurs ont besoin d'une aide d'urgence au moyen de subsistance. C'est ce qu'ont affirmé les organisations onusiennes pour l'alimentation et l'agriculture, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et le Programme alimentaire mondial. De Dakar, le reportage de Seydina Abagay.
La sécheresse, la flambée des prix des denrées alimentaires et les conflits vont entraîner des millions de personnes dans la faim et la malnutrition dans certaines parties du Sahel si la communauté internationale n'agit pas maintenant. Cette situation est due en grande partie à l'intensification des conflits armés qui perturbent les services de base et les moyens de subsistance, ainsi qu'à la cohésion sociale des populations, comme l'indique Abdou Dien, directeur régional du Programme alimentaire mondial pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
Quand vous regardez les pays du Sahel, vous savez que le terrorisme s'installe et effectivement, ça crée de l'insécurité. Cette insécurité fait que beaucoup de personnes qui dépendent de l'agriculture n'arrivent plus à s'adonner à leurs activités traditionnelles. Alors donc, en même temps, il faut faire face à ces problèmes d'insécurité alimentaire, mais aussi il faut faire face aux problèmes d'insécurité tout court.
Dans les six pays, 1,6 million d'enfants risquent de souffrir de malnutrition aiguë sévère cette année, soit une augmentation de 50% par rapport à la dernière crise nutritionnelle majeure du Sahel en 2012. L'insécurité alimentaire, les pratiques alimentaires inadéquates ainsi que le manque d'accès à l'eau potable sont les causes des niveaux élevés de malnutrition chez les enfants. Marie-Pierre Poirier, directrice régionale de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, déclare qu'il faut agir vite.
L'action doit être prise maintenant. Trop d'enfants sont à risque. Il ne faut pas attendre qu'ils meurent pour que nous commencions à mettre en place les réponses nécessaires. Il y a une solution. Simplement, il ne faut pas attendre. Chaque enfant doit être détecté. Dès qu'il est détecté, il doit être pris en charge. Et si c'est le cas, les chances de succès seront là. Donc il faut agir tout de suite pour traiter ces enfants et traiter les causes dans le long terme. Maintenir l'accès aux services, maintenir la paix et la cohésion sociale.
L'UNICEF, la FAO et le PAM ont développé une réponse conjointe pour couvrir les besoins alimentaires, protéger les moyens de subsistance et lutter contre la malnutrition à court terme. Koumba Sow, coordonnatrice sous-régionale pour la résilience en Afrique de l'Ouest dans le Sahel, estime que des moyens de riposte sont disponibles.
Le Sahel connaît ses crises. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est quelque chose qu'on vit régulièrement. Et nous savons prévenir maintenant, puisque nous avons des analyses qui nous permettent de savoir combien de personnes seront touchées, où est-ce qu'elles seront touchées. Et de ce fait, on peut mieux se préparer à les assister pour nous assurer que ça ne dégénère pas en une crise, etc.
L'UNICEF, la FAO et le PAM appellent à un soutien urgent de la part de tous les partenaires, y compris les donateurs, pour aider à atténuer la détérioration actuelle dans le Sahel. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h/24.
En République démocratique du Congo, depuis quelques mois, la cité de Sakania connaît une pénurie en eau potable, et cela suite à l'assèchement de la rivière Lubembe. Pour beaucoup d'habitants, c'est l'exploitation minière frontière SA à Kidjiba qui serait la cause du tarissement de la source par l'irrigation de l'eau vers la Zambie. Le reportage de notre correspondant Narval Mabila.
Ici, dans la cité de Sakania, depuis la nuit des temps, l'eau coulait dans la rivière Lubembe, qui aujourd'hui, elle s'est asséchée. Et nous sommes à la source Lubembe, à quelques mètres du couvent de la communauté salésienne, où nous avons rencontré le père Deogracias, qui est le père supérieur de la communauté et qui tente de nous expliquer la cause du tarissement. Il est au micro de VOA Afrique.
Tout d'un coup, l'eau de la rivière commençait à sécher. L'eau baissait progressivement. Il n'y avait pas de signes avant-coureurs qui montreraient que l'eau sécherait. L'eau est descendue dans quelques mois seulement, on a vu que l'eau est descendue avec une vitesse incomparable et incompréhensible. Et l'eau est partie comme ça et ça a vraiment séché jusqu'à ce que des gens commençaient à traverser à pied, à marcher à pied dans le lit de la rivière Lubembe.
Disons, bon, les bruits qui courent et les gens qui parlent disent que c'est par rapport à la mine, parce que quand la mine a creusé, ainsi de suite, les trous qui est là a aspiré toute l'eau qui est ici.
La pénurie en eau potable est très visible dans la cité de Sakania, où la population et les ONG pointent du doigt l'entreprise minière Frontier SA, qui est du groupe RG, qui exploite les gisements des Kidjiba, qui serait à la base du tarissement de la source. Bonaventure Ngoy, qui est de l'ONG Union pour les droits humains et les développements durables de Sakania, est au micro de VO Afrique.
Nous sommes rendus compte que Frontier donc a déjà atteint la profondeur de plus de 350 mètres. Or, la source est environ 12 mètres. mètres. La profondeur de la carrière, donc tout l'eau qui s'est déversée sur la source, est en train de revenir vers la carrière. Donc, il prend l'eau, il les transfère en Zambie. Alors, c'est ça, nous sommes dit que non, c'est Frontier qui est la base de ça. Frontier a irrigué l'eau de Lubembe pour les renvoyer là-bas. Et privé la communauté de Sakagna, la population de Sakagna.
Entre les lignes, les autorités qui se sont succédées à Sakagna, du DIRCAP du ministre des Mines nationales et du ministre provincial de développement rural, tous juristes de formation, chargent diplomatiquement l'entreprise Frontier, SA, et les met devant ses responsabilités. Localement, le chef des cités, Philippe Tchikambi Kansonda, tente d'éclaircir.
Et je ne sais même pas est-ce que c'est une calamité naturelle ou c'est causé par tel ou problème. Mais Frontier, quand il vous montre aussi, il se défend que ce n'est pas la cause de la mine. Mais est-il que il y a la mine qui est en fonction là-bas, il y a de l'eau qu'on a fait partir de cette carrière qu'on a projetée en Zambie.
Ici, la guerre des lots est à sa genèse, car plusieurs villas sont affectées tout le long de la rivière Lubembe, qui s'étend à une centaine de kilomètres, et entre-temps, l'entreprise garde silence et préfère réparer par le forage de quatre puits dans la cité de Sakagna. De retour de Sakagna, Narval Mabila, VO Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Reporters sans frontières veut lutter contre la désinformation et la manipulation par les médias et les réseaux sociaux. En Afrique subsaharienne, l'organisation constate une campagne de désinformation en ligne, difficile à identifier l'origine. Elle note aussi une légère amélioration en matière de liberté de la presse, notamment en Gambie, en Angola et au Zimbabwe. Pour connaître les difficultés qui se posent actuellement pour exercer le métier de journaliste, Eric Manirakiza a joint à Paris le responsable du Bureau Afrique auprès de RSF, Arnaud Froger.
Il est très difficile pour des journalistes de couvrir des manifestations et de ne pas être pris à partie par les forces de l'ordre. On l'a vu en 2017, notamment au Togo et en Guinée. Près de la moitié des pays, à savoir 22 pays sur 48, sont classés soit en rouge, soit en noir. La situation concernant la liberté de la presse est soit très difficile, voire critique. Il y a des pays comme l'Érythrée et Djibouti, par exemple, où il n'est pas simplement difficile d'être journaliste, c'est tout bonnement impossible. Le journalisme libre et indépendant n'est pas autorisé dans ces pays. Il y a des pays qui sont en guerre, comme le Soudan du Sud, le Burundi, par exemple, comme la Centrafrique également, où il est extrêmement difficile d'être journaliste parce que les gouvernants parfois prennent à partie les journalistes et les accusent de ne pas faire des publications qui vont dans le sens de ce que voudraient les gouvernants. Et puis, ils sont parfois pris à partie par les belligérants.
Mais la Tanzanie n'est pas en guerre.
La Tanzanie est un bon exemple. Depuis que le président Magufuli est arrivé au pouvoir en 2015, il a mené une véritable politique liberticide à l'égard des médias. Des radios ont été suspendues, des journalistes ont été arrêtés. Le dernier fait d'armes, c'est cette loi blogocide qui vise à empêcher la diffusion d'informations en ligne en obligeant les médias et les blogs présents sur le web à payer une licence dont le coût est exorbitant pour être autorisé à diffuser. Et c'est aussi un pays dans lequel on est sans nouvelles d'un journaliste d'investigation qui s'appelle Azory Gwanda et qui est porté disparu depuis la fin du mois de novembre 2017, qui est un journaliste qui enquêtait sur la disparition mystérieuse, des assassinats mystérieux de fonctionnaires locaux et de policiers, et pour lequel aucune enquête ne semble être sérieusement menée de la part des autorités tanzaniennes.
Et comment vous évaluez les conditions de travail en Afrique?
Une des grandes tendances qui inquiète, c'est l'utilisation de plus en plus massive des coupures Internet et des restrictions d'accès aux réseaux sociaux. Nous avons à Reporters sans frontières recensé près d'une dizaine de pays au cours des deux dernières années qui ont eu recours à ces méthodes. Ça a été le cas en Éthiopie, ça a été le cas au Tchad, plus récemment pendant l'élection présidentielle en Sierra Leone, la République démocratique du Congo, qui a recours à des coupures Internet à la veille de chaque grande manifestation désormais. Et puis le Cameroun, qui, au cours de l'année 2017, a privé les ressortissants anglophones d'Internet pendant plus de la moitié de l'année. Le Cameroun, qui est aujourd'hui le seul État en Afrique subsaharienne à être poursuivi devant son propre conseil constitutionnel pour le blackout numérique qu'il a imposé à ses ressortissants des régions anglophones.
Arnaud Froger, responsable du Bureau Afrique à Reporters sans frontières. C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, Joselle Morissin, présentation Morgane Guerriec. Ainsi va le monde aujourd'hui.
Afrique. Les